marcher unique, avec raison du mouvement barrière, ça va supposer la suppression du système des frontières intérieures de l'Union européenne. Et elle est remplacée par un contrôle systématique aux frontières extérieures de l'Union européenne. Néanmoins, quoi qu'il arrive, les services d'impatience ont tout à fait compétence pour exercer leur mission au sein du territoire de l'Union européenne et pour exercer les contrôles, et pas sur le fait qu'une personne franchisse la frontière. Donc, la dit que c'était la loi. La loi ne montre plus une personne qui traverse la frontière, elle montre une personne sur n'importe quel endroit du territoire national, sur la base, et bien considéré le risque de son citage, de son renseignement, de contrôler le billet, si bien que la suppression des frontières a fondamentalement changé les aspects de la lutte et des contrôles. La simple différence, c'est que, de facto, on n'est plus contrôlé par les frontières.
Mais
pourquoi
Parle de la disparité des législations nationales. Donc, vous avez une multitude de pays qui sont propres, les systèmes répressifs ne sont pas identiques dans chacun des pays. Donc, les malfaiteurs se déplacent et font du forum sur le niveau dans les pays qui sont les plus éclatants. Oui.
Si je peux ajouter quelque chose à votre réponse, je pense qu'il n'y a pas seulement la situation des personnes. Aujourd'hui, il n'est pas criminel en raison de la situation. La chose qui déplace d'un état à l'autre, d'une société politique à l'autre, d'une organisation criminelle, sur quelle forme qu'elle soit, sur un droit national, un droit national, l'argent, le produit du crime, en une heure, il y a 25 ans de crime, il y a fait le tour du monde. Donc, les frontières physiques, intérieures en l'Union européenne, à mon avis, ne resteront pas une vraie barrière à la situation. De l'Argentine. Je veux la réciter, la question de
l'esprit,
la société va circuler le produit du crime, hein. C'est très facile. Ça, c'est vraiment.
Au vu d'un événement mondialisé très récent, je me pose la question suivante. Est-ce que la lutte contre le crime organisé dont vous avez parlé ne serait pas plus crédible aux yeux des citoyens si, en même temps, les États, qu'on a l'habitude de qualifier d'États de droit, ne violaient pas eux-mêmes le droit international? Par exemple, tout récemment, avec ce qu'on peut appeler, je pense, exécution extrajudiciaire d'Oussama Ben Laden, on peut se demander pour quelle raison cette personne n'a pas été capturée et n'a pas eu droit, comme tout le monde, quoi qu'on en pense de l'individu, à un procès équitable.
Alors, chacun a certainement son avis sur cette question, et je vais vous donner le mien. Je crois que les États-Unis, je suis sûr, sont en guerre. Je pense que nous sommes tous en guerre contre le terrorisme. Et ce qui s'est passé, c'est un acte de guerre. Voilà. Et donc, je partage pas votre avis en disant qu'il aurait fallu un procès pour...
Par rapport à Nuremberg, excusez-moi, quel recul du droit.
Mais ça n'est pas ça la question. Est-ce que c'est une guerre ou ça n'est pas une guerre? Dans une guerre, si c'est une guerre, il y a une guerre.
Vous me permettez une remarque? Bon,
c'est un avis personnel.
Je ne suis pas juriste, mais j'ai enseigné la philosophie, donc ma question est par rapport à ça. Moi, j'ai toujours appris, que peut-être que vous allez me contredire, qu'il n'y a de guerre qu'entre États. Donc comment est-ce qu'on peut parler déjà d'une guerre contre une sorte de nébuleuse, comme dit la presse, qui est absolument... on grossit pour des tas de raisons. C'est pas une guerre au sens juridique du terme.
C'est-à-dire que le terrorisme a complètement modifié la notion de guerre. Donc je sais que c'est un débat. La France, les voix s'élèvent de partout pour... Alors je ne donnerai pas ma voix à ça, mais je ne parle pas en tant que parle en tant que citoyen, j'ai un avis par rapport à ça. Si quelqu'un veut exprimer un avis différent.
Moi, je n'ai pas d'avis.
Oui, mais si vous permettez de répondre, moi ce que je trouve le plus terrible justement, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que au fond ce sont les terroristes qui défendent le droit international, le droit national. Moi je ne comprends pas pourquoi, au nom de quoi, ou alors un sacré recul, hein, de la conception du droit national ou international, pourquoi? Parce que ces gens-là usent de méthodes qui certes sont horribles, n'est-ce pas, et condamnables, pourquoi les États devraient les imiter? Parce que ça me rappelle exactement le débat sur la torture à l'époque de la guerre d'Algérie, c'est pareil.
Par contre, ça veut dire simplement la fragilité structurelle de la démocratie. Et si la démocratie va au bout de sa logique, qu'il y a malheureusement elle s'arrêtera, il faut en être conscient. Donc c'est un sursaut, voilà, c'est un sursaut, on va dire, un filet, on met les avantages et les inconvénients en balance, et il y a un acte de légitime défense, alors on appelle ça. C'est pour ça que je veux dire que je parle d'agression, de guerre contre le terrorisme, et si vous rejetez le concept de guerre, effectivement, et bien on se trouve dans un dispositif qui ne respecte pas le droit. Mais imaginez qu'on ait respecté, qu'on ait utilisé les... D'abord, c'est toujours là où il est, parce que de toute évidence, le Pakistan, dans le monde politique, il y aurait... Il était là depuis 2 ans, il ignorait. Donc, bon. Mais même à imaginer qu'on ait pu l'intercepter de manière licite, il est arrêté. Vous pensez très sincèrement qu'il aurait pu être traduit devant un tribunal?
On a bien traduit les criminels de guerre nazie devant un tribunal.
Oui, après.
Et ils ont causé bien plus de victimes que M. Ben Laden.
Mais dans les faits, moi je trouve effectivement qu'il n'y avait pas tellement de choix. Parce qu'on a bien, on a écouté un petit peu cette analyse que vous faites, mais ça aurait supposé après beaucoup de choses qui peut-être étaient aussi inconséquentes par rapport aux civils, aux gens qui sont là. Alors je trouve que pour une fois, on a quand même accès aussi à ce côté. On a occupé deux langues pour des grades, et on n'a pas attaqué tout un peuple, etc. On n'a pas pris une guerre,
c'est la grande victoire du terrorisme, là. Quand les États démocratiques renoncent aux droits.
Admettons qu'on parte de votre idée et qu'on dise effectivement il aurait fallu traduire Bernard devant un tribunal. Quel tribunal?
On a bien traduit des criminels serbes dans un tribunal. Bon, il y a des solutions.
Moi, je n'ai pas en position sur fallait-il, ne fallait-il pas, je ne parle pas de l'Ordre américain, ce n'est pas vraiment ça le sens de ma réaction. Ma réaction est celle du juriste. Et savoir devant quel tribunal. Alors, si il est traduit devant un tribunal américain, on va tout de suite dire que c'est la justice des vainqueurs. Donc, pour un cas, il faudrait qu'il soit traduit devant un tribunal international. Or, et là je reviens à une question purement juridique, la Cour pénale internationale qui a été créée en 2002, hein, qui a son siège à La Haye, n'est pas compétente juridiquement pour le terrorisme. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'a pas de juridiction compétente. Donc,
je crois qu'il y a une alors. Une cour mondiale.
Et là, on revient sur les propositions. Voilà, là, on reprend le sens de notre travail. J'ai jamais le moment de faire, je suis une des constructrices de la Constitution. Là, on revient à notre travail. On a besoin de structures juridiques internationales, organisées, qui permettent une réflexion correcte et efficace. Voilà. Donc, je vais juste intervenir par rapport à ce que vous disiez pour la. Nécessairement une condamnation pénale pour que les biens pour vendre à la ville, etc., soient confisqués. Alors, moi, je ne suis pas très heureux de donner un peu d'espoir, mais dans le cadre des procédures que je vois en pratique sur le terrain, c'est vrai que sans qu'il y mouvement de condamnation pénaliste en Berlin, là, je pense par exemple à la cité d'Anne qui soupçonnait en fait d'avoir été habitée par bien au temps d'un trafic de drogue, là c'est vrai que par contre les essais peuvent effectivement être pratiqués.
Oui, mais on n'est pas le cas en condamnation pénale.
C'est une grande condamnation.
C'est une grande condamnation. Une condamnation, comme on dit. Je n'ai pas une grande condamnation.
Alors il y a eu un gros fou.
Là, vous avez une saisie, vous avez un cas de
saisie. Oui, il y a vraiment une
saisie. Oui, il n'y a pas une
condamnation vraiment pénale qui est interdite.
Non, mais la personne, je ne parle pas de condamnation, je parle de procédure. Comme ils disent, on est dans une procédure pénale, et forcément, à un moment donné, on ne peut saisir que ce qu'on peut confisquer, et donc on ne peut confisquer que dans le cadre de l'article 351 pénale, c'est-à-dire donc, comme une sanction lorsque la concession est prononcée à titre de sanction pénale.
Mais c'est vrai que la condamnation effective n'est pas forcément encore intervenue.
Elle n'est pas encore intervenue, mais il n'y en a pas encore, elle est confisquée, elle est simplement saisie.
Oui.
Et est-ce que cette extension des saisies, qui est simplement un privilège du patrimoine, c'est ce que une grande amélioration de la vie des gosses.
Oui, tout à fait, il est possible de poursuivre le lien qui n'est plus entre les mains de l'auteur de l'infraction. Sauf qu'on a encore des décisions de cour d'appel qui disent qu'on ne peut saisir que les liens qui appartiennent dernièrement à l'arrêt de la cour d'appel qui a dit cette énormité juridique. Et on a aussi un arrêt de la cour de cassation qui a refusé la confiscation, la saisie de la confiscation d'un bien qui avait été logé à l'intérieur de la société. Donc ça, c'est... Bon, encore beaucoup on va faire par rapport à ça, mais la liste des frais de cassation est assez importante à cet égard. Avez-vous d'autres questions?
Moi, ce livre, ce que j'interpelle, même si je suis vraiment très contente d'être venue parce que je vois qu'il y a une vraie synergie et des vrais projets qui se mettent en place, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans la section. J'ai lu de près les dégâts causés à la base par les consommations de drogue. Et pour appréhender le mieux possible ces situations, j'ai eu l'occasion de faire juste une idée à Strasbourg, dans un groupe d'étudiants qui faisait une formation d'assistante sociale et de psychologue. Et j'ai été très perturbée, on va dire, pour revenir après dans ce milieu-là, parce que j'ai entendu, à savoir que l'État était tout à fait conscient des trafics de drogue qui se réalisaient, et que quand il y avait un camion contenant de la drogue ou un bateau, X ou Y étaient arrêtés, c'était parce qu'ils avaient décidé, pour exemple, d'en arrêter un, ils savaient très bien ce qui se passait, mais par contre, quand ils en arrêtaient un, ils médiatisaient à fond pour que la population de notre territoire prenne conscience que des débats qui lutte contre ça, mais que tout le reste était passé comme ça, en faisant l'autruche et en toute conscience, pour une première perturbation. Et c'est vrai que ça me rattache directement à ce que vous avez dit tout à l'heure, nos gouvernements successifs ignorent cette situation. Donc est-ce qu'on est dans une situation de déni par intérêt? On sait très bien que si on enlevait l'argent sale de notre économie, il y aurait un effondrement. On sait depuis longtemps que beaucoup de pizzerias, beaucoup de restaurants chinois ne font pas ça comble, mais sont là pour du blanchiment. On sait depuis 40 ans que la région PACA est infestée et vraiment mafieuse, qu'il y a du racket au sein des commerces depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous allez être assez résistant et assez déterminé, même si c'est ce que je vois, pour faire face à cette masse officielle qui a le pouvoir et qui nous joue?
Alors, sur le premier volet, ce que tu voulais dire, par rapport à la situation, je ne sais pas si tu as entendu ce que disait. Ah, oui, parce que c'est assez intéressant.
fait sur la la stratégie quelque part des autorités de police et de la gendarmerie dedans, hein, qui consiste à n'appréhender le dixième ou le centième, hein, de ce qui, de manière stratégique, voilà, qu'il y aurait une véritable ridicule avec beaucoup.
Oui, j'ai eu l'occasion de faire une nouvelle valeur sur les addictions à l'université de Strasbourg. Et les deux universitaires, les deux enseignants que nous avions, un sur l'historique et l'autre sur aujourd'hui, nous disaient qu'aujourd'hui, on connaît très bien le trafic de drogue, mais on arrête sporadiquement un passage de drogue pour l'exemple, pour la médiatisation, et qu'on laissait circuler le reste en toute connaissance de cause. Parce que le gouvernement successif, il ne s'agit pas de couleur ni de quoi que ce soit, ça veut dire que si on bloquait le trafic de drogue, l'économie du pays s'effondrerait. Alors peut-être pas totalement, mais en grande partie. Sachant qu'une bonne partie de nos pizzerias et de nos restaurants chinois sont là pour avoir de réels chiffres d'affaires et sont là pour du blanchiment. Alors c'est assez perturbant d'entendre ça quand on s'est toujours appliqué à côté. Et ça me rattache à ce que j'ai entendu tout à l'heure, à savoir aujourd'hui, nos politiques, depuis, encore une fois, pour la question de couleur, je parle vraiment de présent et d'antériorité, sont dans une situation d'ignorance. Alors l'ignorance, elle n'est pas, pour moi, elle est peut-être volontaire à ce niveau-là, mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation de déni par peur, justement, de cette difficulté
Complexe de nouvelles stratégies. Et c'est là qu'on parle vraiment de confiscation.
c'est un son spectaculaire, même si elle est vraiment sur une enquête en profondeur, et je le faisais aussi, on va déclencher l'opérationnel, on essaie, on va avoir une matière, on va déclencher sur l'intersection de ce pays-là. Et quand on déclenche, ce sont souvent des noyaux à des travaux derrière, et on va aller chercher, je dirais, jusqu'à l'argent, jusqu'au bien. Et ça, c'est une stratégie. Et il faut savoir, en revanche, que vous observez, parce que vous avez les chiffres, les indicateurs, aujourd'hui, y compris le commandant de région, il a des comptes à rendre à Paris chaque année, sur le montant des biens saisis par des indicateurs, l'indicateur trimestriel là-dessus. Et on dit, ben voilà, par rapport à l'année, c'est pas bon, mais bien. Alors je me baserai qu'en Alsace, ces dernières années, en termes de saisie de la loi criminelle, on a explosé les chiffres. Voilà. Et en particulier, on a dit, donc c'est vraiment tout le contraire. Alors le spectacle, c'est pas le spectaculaire, mais souvent, alors il y a au niveau de la stratégie, après tout, on va déclencher l'opérationnel sur une intersection. Voilà. Et on va éviter effectivement de travailler en superficiel, parce que souvent, on va intercepter le carburant. Alors, c'est peut-être l'action qui est évoluée aussi, parce que là, c'est leur quotidien, mais au niveau de l'échec. Systématiquement sur l'ordre et se produire. Et aujourd'hui même d'ailleurs sur la région, quand on a des affaires au livre, on va justement poser des questions. Et comment la faire en élection, est-ce que vous êtes jusqu'où vous avez été dans les autres. Voilà. C'est vraiment mon père. Je le souhaite dans notre état d'esprit. Mon père, et au niveau des politiques, je le souhaite depuis au moins 2002, sans faire de politique, là, la volonté est là, c'est d'aller chercher la politique. Et tous les textes.